J'aimerais parler ce matin sur comment réussir sa vie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24, Jésus raconte cette parabole. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. » Amen. On a une seule vie, et c'est un cadeau précieux, c'est un cadeau de Dieu. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas des numéros. Nous ne sommes pas des singes améliorés, mais nous sommes des créatures de Dieu.
Amen.
Amen. Un jour, il y a une petite fille comme ça qui était allée voir sa maman pour lui demander, mais maman, d'où venons-nous? Et sa maman lui explique, eh bien, Dieu a créé Adam et Ève qui ont eu des enfants, et jusqu'à nous aujourd'hui. Et puis la petite fille est allée voir son papa et lui a posé la même question, d'où venons-nous? Et le papa lui a dit, bien, il y a eu, au départ, il n'y avait que des animaux, et puis il y a eu l'évolution, et les singes, petit à petit, sont devenus des hommes. Alors la petite fille retourne vers sa maman. Elle dit, mais je ne comprends pas, maman. Toi, tu me dis que nous descendons d'Adam et Ève, et papa, il me dit que nous descendons du singe. Oh, la maman lui dit, c'est simple. Moi, je t'ai raconté l'origine du côté de ma famille, et papa, il t'a raconté l'origine du côté de sa famille. Alors, que dit la Bible? C'est que nous sommes des créatures de Dieu, et qu'il n'y a pas de hasard, et que Dieu a un plan particulier pour l'être humain. C'est vrai que Dieu a créé les animaux, mais c'est pour l'homme et la femme que Dieu a envoyé Jésus, afin qu'il soit sauvé, pardonné. Il y a même un plan différent pour l'être humain que pour les anges, car pour les anges, quand ils ont péché, il n'y a pas eu de rédemption possible. Lorsque les anges, lorsque Lucifer, cet ange de lumière, est devenu Satan, il a été évacué du ciel et il n'a pas possibilité de retourner dans le ciel. Il est définitivement exclu de la présence de Dieu. Mais pour l'homme qui a péché, Dieu a prévu le sang, par le sang, le pardon, et Dieu a envoyé Jésus-Christ. Alors, on est tous des créatures de Dieu et on a une grande valeur aux yeux de Dieu. Mais le diable est venu pour jeter de la boue et nous entraîner dans le péché. Un jour, il y a un enfant comme ça qui avait trouvé une pièce de monnaie, mais elle était tombée dans la boue, elle était toute sale, c'était une pièce de 1 euro. Elle était rayée, elle était tout endommagée, et il la donne à son père lui demande « Mais combien elle vaut cette pièce ?» Et son père lui dit « Elle vaut 1 euro. » Elle avait exactement la même valeur qu'une pièce toute neuve qu'il a sortie de sa poche. Pourtant, elle était toute rayée, elle est toute abîmée, elle est toute pleine de boue, mais elle a toujours la même valeur. Et c'est vrai pour nous. Car la valeur que nous avons ne dépend pas de la situation dans laquelle nous sommes. Peut-être on est tombé dans le péché, on est loin du Seigneur, on est dans la boue, on est sali, on est abîmé, on est cabossé. Mais la valeur que nous avons n'est pas liée à cela. Notre valeur, c'est que nous sommes des créatures de Dieu. Nous avons reçu la vie d'en haut. C'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau précieux. Et c'est cela qu'il faut réussir. Nous n'avons qu'une seule vie sur cette terre. Alors je ne parle pas de réussir dans la vie, mais je parle de réussir sa vie. Car si vous avez réussi dans la vie, c'est bien. Peut-être vous avez un nom, vous avez de l'argent, vous avez une notoriété, et pas de problème. Mais quels sont les critères de la parole de Dieu pour réussir sa vie? Ce ne sont pas les mêmes que ceux du monde. Jésus en parle très bien quand il prend cette image. Il dit, un jour il y a un homme qui avait des propriétés, il a eu des grandes récoltes. Et il s'est dit en lui-même, « Moi, j'ai de grands biens, mon âme, maintenant, mange, bois, réjouis-toi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre mes greniers, je vais en construire des plus grands pour mettre toutes mes récoltes. » Cet homme est repris Et le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cet homme, en fait, il avait construit sa vie sans Dieu. Et son âme allait partir en enfer, loin du Seigneur. Et c'est pourquoi, même s'il avait réussi dans la vie, puisqu'il avait des grands biens et qu'il pouvait se permettre d'avoir de plus grands greniers encore, et voilà, il avait réussi dans la vie, c'est bien. Mais en réalité, selon les critères de la parole de Dieu, il n'avait pas réussi sa vie, parce qu'il y a un verset, c'est dans Luc 12, 21, à la fin de cette parabole, il dit « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Il avait réussi dans la vie parce qu'il avait amassé des grands biens, il avait des trésors pour lui-même, mais quant à réussir sa vie, il n'était pas riche pour Dieu. Et ça, il ne faudrait pas que ce soit le cas de quelqu'un ce matin qui a tout misé sur les trésors de cette terre, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire qu'il a raté sa vie, il est passé à côté du plan de Dieu pour sa vie, et finalement, il est perdu pour l'éternité. Alors aujourd'hui, certains chrétiens admirent les gens qui ont réussi selon les critères de ce monde. Oui, ils ont des grands biens, ils ont peut-être 2 maisons, 3 voitures, ils ont un bon travail, des bons revenus, mais ça, c'est les critères de ce monde. Est-ce qu'ils ont réussi leur vie? Est-ce qu'ils sont riches pour Dieu? Pas du tout. Et c'est cela, nous, qui nous importe. Ce n'est pas simplement bien d'avoir tout le confort nécessaire, mais c'est surtout d'être riche pour Dieu et de connaître Dieu et de le servir. Le premier point dans cette parabole des 2 maisons, ça commence par les fondations. Ça commence par les fondations et l'homme prudent est très différent de l'homme insensé. L'homme prudent va aller jusque sur le roc. D'abord, il est dit qu'il est prudent, ça nous parle de la sagesse de Dieu. L'homme qui est prudent a la sagesse d'en haut. L'homme qui va construire sa maison sur le sable, il est appelé insensé, il a la sagesse du monde. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit ceci, que nul ne s'abuse lui-même, c'est Paul qui parle, si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, le monde actuel et sa folie, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Hein, on comprend qu'il y a 2 sortes de sagesse. Il y a la sagesse de ce monde, mais qui est une folie aux yeux de Dieu. Et puis il y a la sagesse de Dieu, mais c'est une folie pour le monde. Mais nous, nous sommes attachés à la sagesse de Dieu. Et le premier qui était donc sage, si vous lisez l'évangile de Luc qui reprend cette même parabole, il est dit qu'il a creusé profondément pour atteindre le fondement solide. Pourquoi creuser profondément? Parce qu'il y a un moment donné où on va atteindre le fondement et c'est Christ. Le fondement solide, c'est Christ. Le deuxième, lui, s'est contenté de construire sa maison sans creuser. À même le sable, il a bâti sa maison. Peut-être il est allé plus vite que le premier. Vu de l'extérieur, les 2 maisons étaient assez similaires. Elles étaient tout en dur. Mais l'une n'avait pas de fondation. Elle ne pouvait pas durer dans le temps. Un autre verset de Paul, toujours, 1 Corinthiens 3:10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. » Et on va voir que ce fondement, c'est Jésus. « Comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Voilà quel est le fondement sur lequel l'homme sage qui a creusé a posé sa maison. Un jour, j'ai eu l'occasion, dans un déplacement, de faire une mission. Et j'avais été invité donc, chez la personne qui me recevait. Et donc, dans sa maison, en fait, il y avait un décalage de 10 cm entre le mur et le sol. Et en fait, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? En fait, les fondations n'avait pas été correctement faite et le plancher descendait, mais très doucement, très 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 doucement, ça ne se voyait pas, c'était imperceptible, 1 mm ou 2 tous les 6 mois, et petit à petit, ça descendait. Et donc il a dû faire des travaux tout à fait extraordinaires pour solidifier les fondations, refaire la chape et ainsi avoir une maison droite, car la maison, en fait, était en train de s'affaisser. Quand les fondations ne sont pas là, alors c'est terrible, hein, les carrelages étaient en train de se détériorer, le mur commençait à se fissurer, il y avait toutes sortes de choses dans cette maison qui étaient dangereuses, mais il fallait retravailler les fondations. Et c'est vrai pour nos vies. Et on se rendra compte que si nous n'avons pas les bonnes fondations, à un moment donné, on va voir des fissures. On va voir que le sol est en train de s'enfoncer, que les murs ne sont pas solides et que tout va s'écrouler autour de nous, car les fondations ne sont pas en Christ. Seul Christ est la pierre angulaire. C'est pourquoi nous devons bâtir notre vie sur Jésus, la seule fondation solide. Avant de connaître Jésus, j'ai moi-même commencé à construire ma vie sur le sable. J'ai commencé, selon mes valeurs, selon mes pensées, à construire ma vie, à faire mes projets, à décider bien ce que j'allais faire de ma vie. Et puis, j'avais mis Dieu de côté. Mais à un moment donné, ça commençait à vaciller. Ça commençait à chanceler. Bon, je continuais à aller à l'église. Mais Christ n'était pas au centre de ma vie. Je continuais à lire la Bible. Je continuais même à chanter les cantiques. Je pouvais même prier. Mais je n'étais pas encore... J'avais pas encore creusé jusqu'au fondement pour donner entièrement ma vie à Jésus. Et toute une partie de ma vie, je l'ai construite sur le sable. Jusqu'à l'été 1986, à Royan, où là j'ai donné mon cœur au Seigneur et j'ai mis Jésus au centre de ma vie et j'ai commencé à bâtir ma vie sur le fondement qui est Christ. Mais avant cela, j'avais bâti ma vie loin du Seigneur, dans mes pensées, ne cherchant pas sa volonté, ne cherchant pas à lui plaire, mais cherchant tout ce que moi j'avais envie de faire. Et ça, c'est pas une vie qui va tenir dans la durée. Alors, quand on donne sa vie au Seigneur, on va commencer à creuser pour atteindre le fondement Christ. Et à ce moment-là, les bonnes fondations vont pouvoir être posées. Le deuxième point, après les fondations, c'est il nous faut utiliser maintenant les bons matériaux. Les bons matériaux pour avoir une vie solide. Car Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Il ne suffit pas d'être sur le bon fondement, maintenant il faut construire avec ce que Dieu nous donne. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun est manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il y a des matériaux qui vont durer, il y a des matériaux qui vont disparaître. Regardez l'or, l'argent, les pierres précieuses, ce sont des matériaux qui vont durer, mais il y en a d'autres comme le bois, le foin, le chaume, ce sont des matériaux qui vont disparaître rapidement parce qu'ils ne sont pas solides. Donc nous devons nous fier à la parole de Dieu. Je dis, la parole de Dieu, c'est comme le fil à plomb de notre vie. Si nous appliquons la parole de Dieu, nous aurons une vie solide en Christ. On arrive dans une société, d'ailleurs, qui est de plus en plus éloignée de la pensée biblique. C'est pourquoi, nous, chrétiens, nous devons bien connaître la parole de Dieu et nous attacher au commandement du Seigneur. Voyez, par exemple, aujourd'hui, dans la société, on est en train, les prochaines lois qui vont être en réflexion, à partir de janvier 2019, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, homosexuelles ou célibataires. Voilà le monde et sa pensée qui s'éloignent de plus en plus de la pensée de Dieu. Ça, c'est la sagesse de ce monde. Mais nous, notre vie, elle est appliquée et basée sur la parole de Dieu. Et donc, ce qui nous importe, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Comment nous pouvons mettre notre vie en règle avec la parole de Dieu? Ça, c'est les matériaux. Et si vous voulez que votre vie soit réussie, que votre vie soit solide, eh bien, il nous faut utiliser les seuls matériaux valables et spirituels qui sont à notre disposition, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne changera pas de discours. Le monde ira de plus en plus loin dans sa folie, mais la parole de Dieu, c'est toujours la même. Vous savez, quand Paul a eu ses révélations, ce n'était pas le christianisme qui dominait dans l'Empire romain, c'était la folie des empereurs et de leurs pensées du siècle, il dit le siècle présent et sa pensée, c'était déjà une pensée très avec des faux dieux, avec des idoles, avec par exemple, il priait plusieurs dieux. il n'y avait pas le christianisme encore très développé. Ils étaient déjà dans un monde très éloigné de Dieu. Mais ça n'empêche pas que Paul, il enseignait exactement la volonté de Dieu pour sa génération. Et puis, c'est ce que nous devons continuer à faire. Car Paul a transmis, il a dit à Timothée, « Ce que je te transmets, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de le transmettre à d'autres. » Est-ce que nous aussi, nous sommes la génération qui va transmettre les vraies valeurs de la parole de Dieu à la génération suivante? C'est notre part, c'est notre rôle. Jusqu'au retour du Seigneur, nous devrons appliquer le fil à plomb de la parole de Dieu. Les matériaux sont les œuvres que nous devons accomplir. Par exemple, Éphésiens chapitre 2, verset 10, Paul dit « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu donc nous a donné la vie, c'est le cadeau de Dieu. Mais il a dit maintenant « Je veux que mes enfants, ils fassent des œuvres, ça veut dire qu'ils me servent, qu'ils agissent dans mon œuvre, qu'ils se rendent utiles dans la maison de Dieu, qu'ils servent dans tous les domaines pour le développement, la croissance de l'Église. Ça, c'est sa volonté. Et il a dit, je les ai créés en Jésus-Christ parce qu'ils ont des œuvres, ils ont des choses à faire. Il y a des choses pour le Seigneur qui ont été préparées d'avance. Et moi, si je suis chrétien, mon désir, c'est de servir dans les œuvres que Dieu a préparées pour ma vie. Je ne vais pas pouvoir tout faire, mais je vais au moins pouvoir faire les œuvres qu'il a prévues pour ma vie. Et celles-là, je ne veux pas passer à côté. C'est ce que nous devons rechercher. Car on ne peut pas vivre une vie réussie, une vie en Christ, si nous ne servons pas le Seigneur. Ça, c'est une vie égoïste. Le chrétien, voilà, je suis sauvé, merci Seigneur, et maintenant j'attends le retour du Seigneur et je ne fais rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est s'égarer, c'est une vie égoïste. Mais vous allez, en servant les autres, en fait, rentrer dans votre vocation, dans ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. Et ainsi, vous allez être utile dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est une belle vie, une vie bien réussie, que de servir le Seigneur dans les plans qu'il a préparés d'avance. Le troisième point, toujours dans notre texte, c'est qu'une fois qu'on a le fondement et on prend maintenant les bons matériaux qui sont selon la parole de Dieu, eh bien, nous devons faire appel à un bon architecte pour que la construction soit belle. Et l'architecte, ça me fait penser au Saint-Esprit qui est notre conseiller. Car le Saint-Esprit est appelé plusieurs fois le conseiller ou le consolateur. Nous ne savons pas quels sont les meilleurs choix pour notre vie. Par exemple, si vous demandez à un enfant « qu'est-ce que tu veux manger ?» Si vous lui demandez tous les jours « qu'est-ce que tu veux manger ?», il est certain que lui va faire ses choix en fonction de ses goûts. Et peut-être il va choisir toujours ce qui est bien gras, comme des frites, comme des bonbons, qui vont être très plaisants à son goût, mais qui ne vont pas être bons pour son corps, pour son organisme. Alors nous qui sommes parents, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va réorienter, on va le conseiller, on va réorienter ses choix pour qu'il diversifie son alimentation, qu'il ait une alimentation équilibrée. Ça, c'est la sagesse. Mais avec Dieu, c'est pareil. Nous, naturellement, nos choix vont porter sur ce que nous aimons le plus. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, va nous réorienter pour nous amener dans les bonnes directions pour notre vie. Et c'est cela que nous devons écouter. Car ce sont les conseils. Il va nous conseiller pour un travail. Il va nous conseiller pour un conjoint. Il va nous conseiller pour une situation où il y a trois possibilités. Seigneur, inspire-moi. Quelle est la meilleure solution pour cette direction ? En lisant la Bible, je méditais sur Abraham. Il voyait son fils Isaac qui devenait grand, adulte, et qui n'avait pas de femme. Mais dans le pays où vivait Abraham, vous vous rappelez qu'il avait quitté son pays, Ur en Chaldée, il est allé jusqu'en Canaan, il n'y avait pas de femmes croyantes dans le pays. Il y avait des Cananéennes qui avaient leurs idoles, qui avaient leur vie, et il a dit, je ne veux pas pour mon fils une femme qui adore des dieux étrangers, je veux une femme pour mon fils qui connaît le Seigneur. Alors il a envoyé un de ses serviteurs, c'est son serviteur qui s'appelle Eliezer, qui était le plus ancien dans sa maison, un serviteur en qui il avait toute sa confiance, et il a dit, tu vas retourner à Charan. là où je m'étais arrêté, là il y a de ma famille, et tu vas aller là-bas pour chercher une femme pour mon fils Isaac. » Mais le serviteur lui dit, « Mais comment est-ce que je vais la trouver ?» Et si je ne la trouve pas, parce que c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin finalement. Eh bien, Abraham lui dit, « Tu vas là-bas, tu te laisseras conduire par Dieu, et si tu ne trouves pas, ben, tu reviens. Mais je ne veux pas que mon fils se marie avec une cananéenne. » Le serviteur part, et il fait cette prière à Dieu. Il dit, « Seigneur, il arrive à Charan, il s'arrête à un puits, permet que la jeune fille qui vient, qui me donne de l'eau à boire, et qui donne de l'eau à boire à mes chameaux, ça soit la femme que toi tu as choisie pour Isaac. » C'est une prière assez audacieuse, n'est-ce pas? En plus, il était venu avec 10 chameaux. Vous savez combien de litres ça peut boire un chameau? Ça peut boire 100 litres. Alors vous voyez un peu la quantité d'eau qu'il imaginait. Eh bien, la première jeune fille qui vient au puits, elle propose de l'eau à boire à cet homme inconnu, donc Eliezer, et elle dit, « Eh bien, je vais puiser de l'eau aussi pour les chameaux. » Exactement comme la prière qu'il avait fait monter vers Dieu. On voit que tout est conduit par le Saint-Esprit. Il a été conduit au bon endroit, le puits. La jeune fille a été conduite au bon endroit. C'était au bon moment, parce que quand nous voulons écouter les conseils du Saint-Esprit, eh bien, nous allons dans la bonne direction. Et puis, lui, alors, vu les signes qui s'accomplissent, c'est extraordinaire, la prière, vraiment, il est exaucé. Alors, il lui demande son nom, Rebecca, il va donc chez le père de Rebecca, il parle de la situation, et il laisse le choix à la jeune fille, est-ce que, avec tous les éléments qu'il a, est-ce que tu acceptes ou pas de venir? La fille, le lendemain, elle accepte, et elle va se marier donc avec Isaac. Voilà comment Dieu conduit par le Saint-Esprit. Il y a bien des années, Dieu m'avait poussé à aller à Gap. Et d'un autre côté, il avait poussé Laurence à aller à Gap aussi. Et moi, je ne voulais pas rester à Gap. Mais le Saint-Esprit m'a poussé, mais vraiment poussé pour rester. Jusqu'à ce que Laurence arrive. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et quand Laurence est arrivée à Gap, il y avait une lumière sur elle. Tout de suite, j'ai compris. C'était l'illumination. Et je lui ai fait ma demande. Et elle m'a fait attendre 24 heures pour la réponse. Mais ça a été un oui. Voilà. Parce que c'était conduit par le Saint-Esprit. C'était conduit par le Saint-Esprit. Quand c'est conduit par le Saint-Esprit, vous êtes le bonjour, au bon endroit, et vous rencontrez la bonne personne. Mais quand vous cherchez par vous-même, c'est compliqué. Parce que vous êtes poussé par ce que vous, vous estimez qui est le meilleur. Alors vous cherchez à gauche, vous cherchez à droite. Souvent ce sont des échecs. Souvent ça ne se passe pas comme vous avez pensé. C'est la catastrophe. Mais prions si notre vie, on a creusé le fondement. Jusqu'au fondement sur Christ. Si on a choisi les bons matériaux, eh bien, prions pour être conduits par le Saint-Esprit, afin que notre vie soit une vie remplie du Saint-Esprit dans sa pensée. Voilà, gloire à Dieu. Moi, je rends gloire à Dieu pour l'année 2018, parce qu'on a eu 4 mariages dans l'année 2018. Amen. Mais l'année n'est pas terminée. Il y a encore un peu de place, jusqu'au 31 décembre. Et si Dieu le permet, on peut encore faire mieux que 4 mariages. En tout cas, que Dieu soit béni pour ces mariages, car je crois que pour le mariage, c'est Dieu qui conduit l'épouse, la future épouse, le futur époux, l'un vers l'autre, afin qu'ils puissent bâtir une vie selon le Seigneur, selon sa pensée, et c'est ça que nous désirons. Le 4e point, toujours dans notre texte, c'est la résistance dans l'épreuve. Car vous l'avez constaté, Jésus dit bien que les deux maisons vont être frappées par les mêmes épreuves. Ça va être la tempête, ça va être un torrent qui va déferler sur cette maison, ça va être de la boue, toutes sortes de difficultés, de calamités. En réalité, les deux maisons sont livrées aux mêmes difficultés, ce sont les épreuves de la vie. Sauf que la première va résister parce qu'elle est fondée en Christ. C'est l'image du chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, fidèle à la parole de Dieu. Et l'autre qui n'a pas la fondation, qui est peut-être chrétien de nom, religieux, qui connaît Jésus de loin, eh bien, il n'est pas assez enraciné pour avoir une vie en Christ. Et ainsi, sa maison, sa vie va s'effondrer. Mais quant aux épreuves, que ce soit les vents qui soufflent, que ce soit les tempêtes qui vont s'abattre sur votre vie, il y aura toujours des épreuves. Même si nous sommes chrétiens. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais depuis que je suis chrétien, j'ai tellement d'épreuves. Mais oui, les épreuves ne diminueront pas. Mais le secret qui est dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous donne la solidité pour traverser les épreuves. Et la grâce, la paix de Dieu. Ça, le monde ne connaît pas. Ils auront les mêmes épreuves, mais ils n'ont pas le roc, Jésus, comme fondation. Plus vous connaissez Christ, plus vous serez solide. Alors, l'ennemi va attaquer, il va y avoir des épreuves, mais vous avez Christ en vous. Christ, c'est une force, c'est une solidité qui vous fait tenir ferme dans l'épreuve. En dernier point, je voulais voir l'exemple de Pierre qui, dans sa vie, en fait, va vivre tous ces éléments. D'abord, Pierre, le fondement de sa vie, c'est Christ. À l'origine, quand on découvre Pierre dans la parole de Dieu, il était pêcheur de poissons. Et il entend parler de Jésus, il est touché par le message de Christ et il accepte ce message. Et qu'est-ce que fait Jésus? D'abord, quand Pierre rencontre Christ pour la première fois, Pierre réalise son péché. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Si on n'a pas réalisé qu'on est pécheur, on ne peut pas vraiment donner notre vie au Seigneur Jésus. Ça, c'est le point fondamental. Il a réalisé la noirceur de sa vie. Il a réalisé qu'il était égoïste, qu'il était loin de Dieu, qu'il était dans sa vie sans Christ. Et maintenant, il accepte Christ. Immédiatement, Jésus lui dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, ça veut dire quelqu'un qui gagne des âmes pour le Seigneur. Une nouvelle destinée. Et c'est en accomplissant la destinée de Christ, que Christ a pour sa vie, que Pierre va être épanoui, qu'il va être heureux, qu'il va servir le Seigneur. Pourquoi ? Il a mis Christ au centre de sa vie. Il ne suit pas juste un prophète, il ne suit pas juste un philosophe, il ne suit pas juste un guérisseur, mais il suit Jésus qui est le Fils de Dieu. C'est en lui qu'il a mis son espérance et c'est Jésus qui va le conduire. Alors, quand un jour les disciples ont abandonné le Seigneur, il y a une grande quantité qui n'ont pas voulu suivre Jésus parce que ils ont dit « Tes paroles sont trop dures, nous ne pouvons pas te suivre ». Mais Pierre a dit « Non, à qui d'autre irions-nous ? » Il dit à Jésus « Toi, tu as les paroles de la vie éternelle ». Pourquoi il dit ça ? Parce que sa vie est fondée en Christ. Et un peu plus tard, quand Jésus demande « Mais qui suis-je au dire des hommes ?» qui suis-je au dire des hommes ? Alors, ils disent les indices que tu es Jérémie, d'autres que tu es Élie, d'autres un des prophètes. Mais Pierre dit « Mais moi, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette parole-là, bien, il l'attire parce que sa vie est fondée en Christ, parce qu'il est animé de Christ et de sa pensée. Ça, c'est le fondement. Toujours dans la vie de Pierre, les matériaux utilisés, eh bien, ça va être la parole de Dieu qui va façonner sa vie. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, Pierre écrit « Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que l'Éternel est bon. » Ah, la parole est pleine de bons conseils parce que, voyez, la malice, la ruse, le mensonge, les médisances, tout cela, nous ne devons plus rien avoir à faire avec ces choses et prendre des positions. Et si quelqu'un commence à avoir de la médisance, de la ruse, de la malice, eh bien, il faut être assez ferme pour dire non, nous ne voulons pas participer à ces mauvaises œuvres. Mais par contre, il dit désirer ce lait de la parole. C'est ça qui est spirituel, c'est ça qui est pur. Si vous nourrissez de la parole de Dieu, vous allez croître, c'est-à-dire votre vie va s'édifier sur un fondement donc qui est Christ, mais avec les bons matériaux. C'est les matériaux de la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la parole dans notre vie? C'est l'ossature. Si vous enlevez l'ossature du corps humain, ça va être tout flasque. Le squelette, il est là pour nous permettre de tenir debout. Mais certains sont tellement faibles, ils n'ont pas d'ossature. Ils n'ont pas les os solides. Ils ont les os fragiles. Il y a une maladie qui s'appelle les os de verre. C'est des, ceux qui sont atteints de cette maladie, moindre chose qui leur tombe sur les os se cassent. Ils ont les os fragiles, c'est une maladie terrible. Eh bien, spirituellement, si nos os sont fragiles, c'est-à-dire si la parole de Dieu n'est pas dans notre vie, nous serons constamment abattus, découragés, faibles, fragiles. Alors, regardez la place de la parole. Quelle place elle a dans notre vie? Si elle n'a pas la première place, si elle ne nourrit pas notre vie, alors c'est certain que nos os sont fragiles, c'est certain que nous manquons de solidité intérieure. Je discutais avec un pasteur il y a quelque temps. Il me dit que dans son église, il y a eu un vent de fausse doctrine qui a soufflé. Et il y a 10 jeunes, sur les 25 jeunes du groupe de jeunes, il y a 10 jeunes qui ont été entraînés par la doctrine de la dernière réforme, Last Reformation, dont je vous avais parlé il y a quelque temps. Ce sont des gens qui ne vont plus à l'église. Ils vont maintenant dans les rues et ils ne s'occupent plus de l'église. Il a perdu 10 jeunes, comme ça, à cause d'un de ses responsables qui a suivi cette doctrine, qui a attiré à lui toute une partie. Pourquoi? Parce que ces jeunes ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. Et ainsi, toutes les doctrines qui arrivent, on les suit, on s'égare, parce que notre vie n'est pas solide. Si nous ne sommes pas solides dans les temps que nous vivons, c'est certain, nous sommes en grand danger. Il y aura de plus en plus, et Paul le dit, dans la fin des temps, il y aura des fausses doctrines, il y aura toutes sortes de discours mensongers. Les chrétiens les moins affermis seront séduits et suivront le mouvement. Donc il nous faut vraiment connaître, car quand on connaît la parole rapidement, on sent un malaise, on sent que là, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la paix de Dieu, vous sentez dans votre cœur qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous connaissez bien la parole de Dieu. Un autre élément dans la vie de Pierre, c'est qu'il est conduit par le Saint-Esprit, c'est l'architecte. Pierre est conduit par l'Esprit lorsque il est poussé à aller prier à un moment donné sur le toit de sa maison. Il voit une nappe avec des animaux. Dieu lui dit « tu et mange ». Mais pour lui, c'est des animaux impurs parce qu'il est juif. Mais Dieu lui dit « ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère plus comme impur ». Et au même instant, il dit « l'Esprit lui dit ». L'Esprit lui dit, trois hommes sont arrivés de chez Corneille, va avec eux. Et il va aller chez Corneille leur annoncer l'Évangile. On voit que c'est un homme maintenant qui vit par l'Esprit. Et puis, la résistance de Pierre dans la tentation, car Jésus l'avait averti dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis mes frères. » Pierre a été réclamé pour être criblé. On sait que quand on a donné notre vie au Seigneur, on va passer par le crible parce que l'ennemi va nous attaquer. Il y a un combat puissant. Il y a les traits enflammés du malin. La Bible dit qu'il y a les pièges du diable. Et Pierre a été attaqué. La Bible dit même qu'il a renié le Seigneur. Il a menti à une femme en disant « je ne connais pas cet homme ». Il a fait des imprécations. Mais comme sa vie était bâtie sur le fondement Christ, il s'est repenti, il a pleuré amèrement, il a demandé pardon pour son péché, il a reconnu ses erreurs et il est revenu. Qu'est-ce que Jésus avait dit? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. On pourra peut-être tomber, on pourra plier, on sera découragé, mais Jésus prie pour nous que notre foi ne défaille point et nous pouvons revenir. Pierre est revenu. Une autre version dit qu'il s'est converti. Il est revenu au point de départ, au point où il avait quitté. Et des temps d'égarement, nous connaissons ça. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin. Vous avez perdu la paix, vous avez perdu la joie, vous vous êtes égaré comme Pierre. Vous êtes dans votre péché, vous êtes séparé de Christ. Mais vous pouvez revenir aussi, car Christ, lui, vous aime. Il prie pour vous. J'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point. Même si on a péché, même si on est plus bas que terre, eh bien on peut être restauré. Regardez Pierre quand il est restauré, il est revenu à Jésus. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, Il a prêché l'Évangile et il y a plus de 3000 personnes qui ont été touchées par le message de la parole de Dieu. Il pouvait un peu plus loin affirmer le nom de Jésus devant le Sanhédrin alors qu'on leur avait dit « Vous ne parlez plus du nom de Jésus ». C'était plus le même homme, il était transformé. Il pouvait prier pour Dorcas qui était morte, il a prié pour elle et il y a eu une résurrection. Pierre a donc connu des temps bénis avec le Seigneur, il a fondé sa vie sur Christ. On va prier quelques instants, car vous aussi, vous êtes là devant le Seigneur, devant cette question, voulez-vous aussi vous réussir votre vie? Voulez-vous réussir votre vie? Oui, vous voulez réussir dans la vie, ça c'est bien. Mais réussir votre vie, c'est encore plus important. Car pour réussir sa vie, il faut déjà creuser, aller jusqu'au fondement. Est-ce que vous avez donné votre vie à Christ? C'est le seul fondement. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des choses de ce monde, c'est Christ. Utilisez vraiment les bons matériaux, commencez à lire la parole de Dieu, mettez-la en pratique, obéissez à ce que Jésus vous demande. Et vous allez voir, ça c'est les matériaux qui vont durer. Faites appel au sage architecte qui est le Saint-Esprit. Demandez-le de vous conduire au bon endroit, vers les bonnes personnes. Et là, vous aurez de la résistance, car vous commencerez à faire les bons choix. Tant qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, la plupart des choix que nous faisons, ils sont à côté. Ou ils sont mauvais, ou ils sont égoïstes, ou ils sont selon les principes du monde. Mais quand nous prions et que nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire, alors il va mettre sur notre route les bonnes personnes et il va nous les faire discerner. Il va nous permettre de comprendre son plan et il va nous permettre de faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Voilà une vie réussie. Voilà une vie où vous aurez de la résistance dans l'épreuve. Merci encore Seigneur pour ta grâce. Nous croyons que tu es là pour chacun ce matin, que tu es venu pour donner ta vie en sacrifice afin que nous ayons une vie d'abondance, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions fonder, bâtir notre vie sur Christ. Merci pour cette parole de Jésus qui nous montre que notre destinée est en toi. En dehors de toi, il n'y a pas de fondation solide. En dehors de toi, il n'y a pas de vie qui tienne la route. Seigneur, nous voulons revenir à l'essentiel. Comprendre, Seigneur, comment toi tu veux bâtir. Seigneur, comprendre ce que tu veux pour chacune de nos vies. Merci Jésus, en toute chose, nous te rendons gloire. Amen.